Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, il est 4h57, nous sommes le 24 mai 2019 et je déclare officiellement le week-end entrouvert, puisque, comme le dit si élégamment Céline Dacosta...
C'est vendredi, hein.
Ouais. Bonjour Céline.
Bonjour Mathieu.
À quoi va ressembler notre week-end?
Ah bah c'est pas terrible pour le sud-ouest.
Ah, pour le sud-ouest.
Aujourd'hui en tout cas, les orages arrivent et puis nous, ça sera pas trop mal. Hein.
Ah oui.
Nous, sur la moitié nord, ça va aller à peu près. C'est surtout la moitié sud qui va morfler avec
la pluie. Et côté sur l'ouest de la France, partie importante, hein, une partie importante.
Par exemple en Normandie,
par exemple. Oui,
par exemple en Normandie,
région, là,
on devrait plutôt s'en sortir aussi avec pas mal de nuages, mais encore de larges éclaircies.
Très bien. Égoïste. Faites chauffer un message là-bas. Faites chauffer le barbecue. Merci Céline. À vos côtés, si le loup a refait son apparition dans les Alpes du Nord, la cougar est en revanche originaire des Alpes du Sud. D'ailleurs, message à l'attention de nos auditeurs, les questions chaque matin ne sont que de pure forme. La seule question qui compte, la seule raison d'être du 39-21, c'est bien sûr, êtes-vous célibataire? Si oui, à J-40 de l'été, n'oubliez pas qu'Eva cherche activement un amant fougueux.
Pizzaïolo ou pas?
Oui, ou pas. Hein. Les plombiers sont acceptés aussi, sous condition d'avoir un beau sourire. Sinon Eva, n'oublions pas votre alibi. Quelle question posez-vous à nos auditeurs ce matin?
J'y vais là, ça y est.
Oui, les auditrices aussi jouent.
D'accord, bah oui, évidemment.
Bien sûr.
À 6h45, je vais vous parler d'une nouvelle série française qui s'appelle Double Jeu. Et à cette occasion, on avait envie de savoir si vous aimez les séries françaises, lesquelles, pourquoi, qu'est-ce que vous avez regardé.
Alors, Mathieu.
Vous refaites un petit tweet avec
la mention hashtag Europe 1. Je sais juste parler dans le micro,
à peu près.
Et bien moi, je vous conseille une série qui est vieille maintenant, parce que je l'ai redécouverte sur MyCanal, pour tout dire. Et ça s'appelle Jour Polaire. C'est une série...
C'est très bien, avec Laïla Bekti.
Excellente dedans. Et l'intrigue, j'ai pas encore fini, mais l'intrigue m'a l'air de monter en puissance.
C'est pas une vieille série, c'était il y a deux ans.
Ah oui, c'est passionnant. Merci Eva. Aujourd'hui, nous souhaitons un joyeux anniversaire à un footballeur, acteur, peintre de génie, Eric Cantona. Celui qu'on surnommait Manchester The King. À 53 ans, je me disais que peut-être pour l'occasion, Céline pourrait se lancer dans une petite imitation.
C'est totalement impossible, ça, tu sais.
Alors non, on va s'en passer. Vous n'avez pas trouvé d'autre angle que l'accent du Sud?
Tout à fait, mais je n'ai pas trouvé.
Bien, alors voilà. On embrasse également le monumental Jean-Pierre Bacri. Dominique Lavanant également est né un 24 mai. Jolie crue, décidément. Dominique Lavanant, inoubliable esthéticienne des bronzés.
Eh ben, dis donc, vous m'avez laissé tomber comme une vieille chaussette.
Mais non, on arrive des emmerdements, t'as bien fait de pas vous attendre là.
J'en mourrais d'envie de vous attendre. Il y a eu un moment où je me suis sentie tellement seule que je voulais me tuer. Du coup, j'ai mangé les 12 douzaines d'huîtres.
Drôle et bouleversante à la fois. Ça me fait penser à deux femmes que je connais bien, mais qui, elles, dans la même situation, seules face à une bourriche d'huîtres, auraient eu une autre solution.
Il faut leur parler aux huîtres aussi. Hein.
Ah, bien sûr, il faut parler aux huîtres.
Et ben voilà, c'était ça la solution. Enfin, on célèbre ce 24 mai l'anniversaire de Bob Dylan, 78 ans. Chacune de ses chansons est une caresse. Chaque note résonne en nous avec une poésie parfaite. Il est l'une des figures majeures de la musique occidentale. Son œuvre a d'ailleurs été saluée en 2016 quand il obtient le Nobel de littérature pour avoir créé, je cite, « de nouvelles expressions poétiques dans la grande tradition de la chanson américaine ». Oui, Céline ?
Comme Maître Gims la semaine dernière avant son concert au Zénith de Strasbourg.
Oui, on peut parler de filiation. Vous écoutez ? Deux heures d'infos, de rire et en cette période de festival de Cannes, dommage vibrante au cinéma. Céline, 4 secondes de la vérité si je mens.
Ah mon chéri, comment ça va? Alors.
Merci, debout les copains, c'est parti.
Nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 mai, merci d'avoir choisi Europe 1. Et très bon réveil, il est 5h. 5h, 7h, Mathieu Noël.
C'est fou comme la musique de la vérité siègement n'allait pas du tout avec notre jingle. On n'est pas du tout bien. Le premier journal de ce 24 mai, c'est avec vous, Jérôme Lacroix. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Dernier jour de campagne pour les européennes. Scrutin dimanche, tête de liste et chef de parti jettent leur dernière force dans la bataille. L'anesthésiste de Besançon a-t-il cherché à empoisonner l'une de ses propres collègues? Témoignage dans le journal de cette consoeur qui a échangé à la dernière minute la date d'une intervention. La femme qui a pris sa place est décédée. Et puis Roland Garros, début du tournoi de tennis parisien dimanche. On connaît les affiches du premier tour. Nadal, Federer, Djokovic et les Français.
Europe 1.
23h59 ce soir, silence radio sur les discours et programmes des candidats aux élections européennes. Dans les médias, période de réserve obligatoire à 48 heures du scrutin. Dernier jour de campagne aujourd'hui, dernière grande réunion de la liste de la majorité à Paris, en présence du Premier ministre Édouard Philippe, qui était hier soir près d'Orléans. La France insoumise tiendra meeting à Lille. Après hier soir, Villeurbanne, près de Lyon, Jean-Luc Mélenchon a tenté de mobiliser. Alors que les sondages placent son mouvement aux alentours de 8% des voix, loin derrière le Rassemblement National, La République En Marche et Les Républicains. Jean-Luc Bougeon.
Jean-Luc Mélenchon fait comme si de rien n'était, pas un mot sur ces sondages qui ne décollent pas dans un discours pourtant de près d'une heure et demie. D'ailleurs, il n'est pas non plus beaucoup question d'Europe. Le leader insoumis préfère rendre un hommage appuyé aux Gilets jaunes.
Les Gilets jaunes sont l'honneur de la patrie républicaine des Français. Ils incarnent l'esprit rebelle, les têtes dures sans lesquelles on ne change jamais rien, parce que aucun droit, aucun avantage, aucun partage n'a jamais été acquis autrement que par la lutte.
Mais l'un des gros morceaux de son discours, cette façon assez étonnante, l'écologie, il veut décréter un état d'urgence climatique et en profite au passage pour cogner sur Emmanuel Macron.
Il dit « on va taxer le kérosène en Europe ». Menteur ! Il y a deux jours, il a refusé l'amendement des Insoumis demandant qu'on taxe maintenant, ici, le kérosène des avions et des bateaux. Vous ne le croyez pas ! Donnez-lui la leçon ! Punissez-le dimanche !
Jean-Luc Mélenchon très offensif et qui a donc beaucoup verdi son discours. Peut-être pour mieux damer le pion d'un de ses concurrents directs dans cette campagne, l'écologiste Yannick Jadot qui le devance dans les sondages, dans une élection qui a souvent été favorable aux Verts dans le passé. Villeurbanne, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Et notez qu'Emmanuel Macron participera en fin de journée, 18h15-19h, à une séance de questions-réponses sur YouTube, aux côtés du YouTuber Hugo Clément, histoire de cibler les jeunes et de les encourager à aller voter.
On vote aujourd'hui pour ces européennes en Irlande et en République tchèque.
Oui, après les Pays-Bas hier, les Pays-Bas où on semble se diriger vers une victoire surprise des pro-européens. Les travaillistes crédités de 18% devanceraient les libéraux et les populistes. Sur le vote au Royaume-Uni, en revanche, on ne saura rien avant dimanche soir, même si eux aussi ont voté hier. Theresa May pourrait annoncer très prochainement son départ. Réunion ce matin avec le chef des députés conservateurs. La première ministre contrainte hier de repousser le vote de son accord sur le Brexit. Une quatrième consultation du Parlement était prévue début juin après déjà trois refus.
Europe 1, il est 5h04.
Les représentants de British Steel doivent aller voir en fin de semaine prochaine les salariés inquiets d'Ascoval. Le sidérurgiste britannique a repris il y a peu l'aciérie du Nord mais vient d'être placé en faillite par la justice anglaise, ce qui angoisse les 270 employés du site français. Hier, réunion à Bercy lors de laquelle le gouvernement a une nouvelle fois juré que ce projet de reprise était le bon.
De nouveaux soupçons à l'encontre de l'anesthésiste de Besançon.
Frédéric Péchier, mis en examen, poursuivi pour désormais 24 soupçons de patients empoisonnés, 9 sont morts. Ce praticien a-t-il cherché à empoisonner l'une de ses propres collègues? Les faits présumés se seraient déroulés à la clinique Saint-Vincent-Pierre de Cossette.
Lorsque l'affaire a éclaté, tout s'est éclairé pour Catherine Nambeau. Elle-même anesthésiste, elle se souvient du mystérieux décès d'un de ses patients en 2008. Le docteur Péchier était là. Mais elle tremble surtout en repensant à ce jour où elle-même a été opérée. Le docteur Péchier devait faire l'anesthésie, les poches de produits étaient prêtes, mais finalement, changement de planning, c'est une autre patiente qui prend sa place et qui succombe. Coïncidence, difficile à croire pour son avocat Alain Dreyfus-Schmidt.
Rétrospectivement, on réalise effectivement que manifestement, il avait voulu l'empoisonner ce jour-là. Ce qui correspond assez à la psychologie du docteur Péchier. Vous imaginez bien, s'il avait sauvé la vie d'une de ses collègues, il sortait à nouveau comme le héros, comme celui qui précisément arrive à ressusciter en quelque sorte les gens. Effectivement, il y en a certains qui ont été sauvés. Alors elle, est-ce qu'elle l'aurait été ou pas ? On ne le saura jamais.
Quelque temps avant cette opération, les deux collègues s'étaient un peu brouillés. Des relations conflictuelles récurrentes entre le docteur Péchier et ses confrères. Pour le procureur, les incidents suspects à la clinique étaient plus fréquents durant ces périodes.
Pierre de Cossette, pas de date de retour en circulation des Boeing 737 MAX à l'issue hier d'une réunion au Texas des autorités mondiales de l'aviation civile. Il y a encore des doutes sur le bon fonctionnement de ces appareils. Deux d'entre eux se sont récemment écrasés. Et puis 3h28, c'est la durée du film Mektoub My Love Intermezzo, projeté hier soir à Cannes. Long, long métrage, c'est le plus long en compétition officielle au festival. Son réalisateur Abdelatif Kechiche, palmé d'or pour La vie d'Adèle il y a 6 ans, est de retour cette année et avis très partagé pour ce film à la sortie sur les pérégrinations amoureuses et surtout sexuelles d'une bande de jeunes. Certains le jugent pornographique, il faut dire qu'il contient une scène de sexe d'une durée de 13 minutes.
Ah, une durée. On sent que ça vous fait rêver, 13 minutes. Une durée.
Au cinéma.
C'est presque du sport, 13 minutes.
13 minutes.
L'occasion de passer au journal des sports.
Aucun parallèle avec la réalité, bien évidemment.
À la une du journal des sports, le début du chemin.
Oui, on connaît ce matin le programme des premiers matchs de Roland-Garros, le grand chelem parisien de tennis démarre dimanche. Tirage au sort hier soir. Le début de parcours s'annonce tranquille pour Nadal. En quête d'un 12e sacre porte d'Auteuil, il affrontera.
Pourquoi il n'a pas de Français sur son chemin ?
Alors, au premier tour, il affronta des joueurs, on ne sait pas encore qui sur les deux premiers tours, puisque ce sera des joueurs issus des qualifications au premier et au deuxième tour. Roger Federer, lui, se trouve dans la partie de tableau de l'Espagnol, mais c'est en demi-finale seulement que les deux champions pourraient se retrouver. Federer de retour à Roland-Garros après trois éditions d'absence. Lui, il va démarrer opposé à l'Italien Sonego, 73e mondial. Le Suisse est une attraction hein, cette année, comme en témoigne Sébastien Grosjean, le capitaine des Bleus de Coupe Davis.
Je suis ravi de voir Roger. Il sent vraiment bien le jeu sur terre battue. Il a gagné ici, mais il a fait plusieurs finales. S'il n'y avait pas eu Rafael, il aurait peut-être gagné plus de titres ici. Donc tout simplement, il fait partie des tout meilleurs sur cette surface.
Et Djokovic, lui, démarrera face au prometteur polonais Urkaz. Côté français, pas de chance pour Herbert et Mahu, respectivement opposés au 14e mondial Medvedev et à l'italien Cecchinato, demi-finaliste l'an passé. Abordable en revanche pour Gaël Monfils face à Taro Daniel, japonais 107e mondial. Richard Gasquet attaquera lui par l'allemand Micha Zverev, 103e mondial.
Richard Gasquet qui est d'ailleurs ce matin l'invité de Nico Salegas à 7h45.
Du basket et les joueuses de Lyon-Villeurbanne sont championnes de France. Victoire hier soir en finale contre l'AT Montpellier, 75-61, premier titre de la section féminine du club, un succès aussi dû à Tony Parker qui a racheté l'ASVEL et l'a mené à ce sommet en 2 ans à peine.
On termine Jérôme avec le chiffre du jour. 13 minutes. Ah non, non. Pardon. Je sais pas si c'est un chiffre qui m'a marqué ça.
18 et 19, ce sont les deux rangs du classement de la Ligue 1 que quatre équipes veulent à tout prix éviter ce soir. 38e et dernière journée, quatre clubs concernés par le maintien dans l'élite ou la descente en Ligue 2. Amiens, Caen, Dijon et dans une moindre mesure Monaco. On y revient dans le journal des sports de 5h35 et cette dernière journée de Ligue 1, elle sera à suivre en multiplex ce soir sur Europe 1.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix.
Europe 1. Il est 5h08, Mathieu Noël.
On appellera désormais Monsieur 13 minutes. Ouais, debout les copains, continue avec un point météo suivi du pressing, notre revue de presse en mode zapping. Et puis, si pour certains, comme Julio Iglesias, l'immobilisme a son charme.
Et toi non plus, tu n'as pas changé.
À Europe 1, on pense au contraire que dans la vie, il ne faut pas avoir peur de changer. C'est pourquoi tous les matins, dans Fallait oser, on donne la parole à celles et ceux qui un jour ont décidé de changer de vie. Aujourd'hui, je vous présenterai Thomas, ex-financier devenu boulanger. Oui Céline ?
Oh, j'adore la farine de châtaigne.
Oui, d'accord. Donc Thomas, qui a eu le culot, Oui, quoi Céline ?
Moi, j'aime bien la farine de pois chiche.
Oui, bah, d'accord, mais c'est pas la bouffe, l'épicentre de cette rubrique. Vous savez, on parle courage, innovation, insolence.
J'ai fait des cookies, farine d'épeautre avec de la noix de coco et des gros morceaux de chocolat.
C'est trop bon. Bon, à tout de suite, vous avez compris l'idée.
Il est 5h10, Mathieu Noël.
Parfois, chers auditeurs, j'aimerais vous entraîner dans... J'aimerais que vous partagiez les discussions qu'on peut avoir en antenne, mais là, je me dis, on ne sait pas, si jamais il y a des enfants qui écoutent, on ne peut pas. On
va plutôt c'est pas à votre la météo. Choix de prendre des sons.
Non, c'est pas du tout, c'est pas du tout, c'est pas du tout mon genre. Ouais. Vous n'entendrez probablement jamais ce qui s'est dit là, sauf peut-être lundi. La pluie revient et avec elle, les orages, Céline, aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, des orages marqués cet après-midi dans le sud-ouest, l'Auvergne, et puis en remontant vers la région centre, voire en fin de journée, l'Île-de-France. Un ciel qui, ce matin, est bien couvert et déjà pluvieux des Landes à la région Midi-Pyrénées. Ciel pluvieux qui gagnera aussi le Languedoc-Roussillon et le flanc est, avec là aussi quelques coups de tonnerre possibles sur les reliefs. Bref, ça se complique. Hein. Comme prévu, ça sera encore calme ce matin avec des nuages, mais de larges éclaircies quasiment partout. Cet après-midi, en revanche, le soleil résistera surtout, une fois n'est pas coutume, de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais.
Merci Céline Evaroc.
À 6h45, je vais vous parler de la nouvelle série française qui sera diffusée sur France 2 et qui s'appelle Le Double Jeu, série policière et comédie. Et à cette occasion, on vous demande quelles sont vos séries françaises préférées, si vous en avez évidemment, ou si vous n'aimez pas ça, dites-nous aussi pourquoi. Alors, il y en a deux séries qui reviennent, mais vraiment
Essayez. Engrenage,
exactement.
Et le bureau des légendes.
Exactement. Deux séries policières de Canal+. Et puis Michael Frison, qui travaille chez nous et qui est community manager, nous dit pas de pitié pour les croissants. PPPC pour les intimes.
Oh la vache.
Voilà. Nous ramène un petit peu quelques années en arrière. Vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci.
Europe 1. 5h, 7h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, l'émission de tous les possibles. Où chaque matin dans Fallait oser, on vous présente quelqu'un qui a osé changer de vie. Ce matin, rencontre avec Thomas Pasturel, 32 ans, il vit à Quetteville en Normandie. Thomas a travaillé dans la finance pendant 13 ans, mais il avait envie de créer un projet à impact positif. Il a quitté la finance l'an dernier et en rachetant un vieux fournil avec sa compagne, il s'est lancé dans la fabrication artisanale de pain.
Fallait oser.
On a cherché à acheter une maison, à développer nos activités et on est tombé sur ce vieux corps de ferme à 15 minutes de Honfleur qui sur le terrain à la fois une maison et un fournil, donc ce qu'on appelle un four à pain dans le coin, c'est-à-dire vraiment le bâtiment où on faisait du pain il y a 100 ans pour les dizaines d'ouvriers de la ferme. C'est de là qu'est né ce projet du fournil 1672, de faire revivre ce bâtiment, son activité, de reconstruire un four maçonné avec des artisans, de redémarrer cette activité traditionnelle.
Thomas a racheté le fournil en novembre dernier. Depuis, il se forme activement au métier de boulanger auprès des paysans normands.
Alors Thomas travaille avec du levain sauvage naturel et veut que son pain puisse avoir un maximum d'apport nutritif. Il souhaite aussi que le fournil dynamise le terroir en développant les blés anciens. Il se félicite du lien établi avec les gens.
Quand on est en soirée, au restaurant, avec des amis, et qu'on dit qu'on est en train de monter un fonds d'investissement, globalement, ça intéresse personne. Quand on parle de pain, il faut savoir qu'il y a 98% de la population française qui mange du pain. Donc c'est quand même beaucoup plus universel. Je pense que ce qui participe au bonheur et à l'épanouissement, c'est ce changement de relation avec l'entourage et puis avec le reste des gens, de la population, et d'avoir ce lien beaucoup plus direct, beaucoup plus tangible, c'est magnifique.
Un pique-nique. Et pour répandre l'odeur du pain artisanal dans tout Quetteville, Thomas a lancé une campagne de crowdfunding qui se termine d'ailleurs lundi afin de redonner vie à son four à bois vieux de 150 ans, Eva.
Et oui, et puis vous pouvez participer sur www.zest.coop, C-O-O-P, ou en cherchant son fournil, fournil 1672. Et puis si vous voulez nous faire partager votre expérience de changement de vie, vous nous envoyez un mail ou un tweet avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est 5h14, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, nous sommes le 24 mai, journée mondiale du bricolage. Journée que célèbre l'équipe en studio depuis 5 heures. Bah, c'est un peu bâtard, hein, je dois l'avouer, mais c'est quoi par terre? Et ce trou-là, Arnaud Lagardère va devenir dingue. Vous savez combien ça coûte un studio de radio? Il est tout neuf en plus.
Oh, c'est du plâtre, on a refait un petit peu le plafond et puis bon bah...
Ah oui, Seigneur Dieu. À suivre, la solution à cet angoissant repas de famille qui vous attend ce week-end s'appelle Vendredi les bons tuyaux. Des tas de sujets de conversation pour ne jamais sombrer dans l'ennui et épater votre beau-père. Au programme notamment Festival de Cannes pour votre cousine Odile qui commence chacune de ses phrases par « Le problème avec Audiard, c'est que... » et casque de réalité virtuelle pour votre neveu Brandon Michel qui finit chacune de ses phrases par...
Ouais, faut arrêter, c'est bon quoi.
Et puis le docteur Ichou viendra nous palper le ventre en soufflant sur ses mains pour les réchauffer en précisant « Attention, elles sont froides avant de ricaner !» Il nous parlera aussi d'un ouvrage « Guérir de ses traumatismes » avec le brain spotting du docteur Christian Sazik. Qu'est-ce que le brain spotting, Céline? Ichou nous expliquera. Mais avant cela, vous prendrez bien un peu de LSD. Voici Genius sur Europe.
Do you think I'm stupid? Do you think I'm batshit crazy having you on my mind? Do you think I'm helpless? My algebra gon' equal you every time. Do you think I'm calling? Do you think I'm calling out your name every night? Girl, I've fallen for you. Oh my God.
Oh my God, like the eyes and cross the cheeks. I got everything you need. Well, only a genius could love a woman like, oh my God, you're the lock and I'm the key. I got everything you need.
Genius, c'était LSD sur Europe 1.
Il est 5h18. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
23h59 ce soir, silence radio sur les discours et programmes des candidats aux élections européennes. Période de réserve obligatoire à 48 heures du scrutin. Dernier jour de campagne aujourd'hui, ce soir réunion publique de la liste de la majorité à Paris. La France insoumise tiendra meeting à Lille. On votait dès hier aux Pays-Bas et on semble se diriger vers une victoire surprise des pro-européens. Les travaillistes crédités de 18% devanceraient les libéraux et les populistes. Enfin, de nouveaux soupçons à l'encontre de l'anesthésiste de Besançon, Frédéric Péchier, mis en examen, poursuivi pour désormais 24 soupçons de patients empoisonnés. 9 sont morts. Ce praticien aurait cherché à empoisonner l'une de ses propres collègues il y a 3 ans. Cette consoeur a échangé à la dernière minute la date d'une intervention. La femme qui a pris sa place est décédée.
Europe 1.
Voici pour les titres de ce 24 mai 2019 et tout de suite, Thierry Léger et ses pronostics hippiques. Thierry, adulé par les connaisseurs, estimé de tous, on lui voue ici une admiration et un respect sans bornes, notamment Céline qui apprécie particulièrement son phrasé.
Et mon pari gagnant sera le 613 Cressida.
Pourquoi tu parles comme ça Thierry Léger? Est-ce que dans la vie tu parles comme ça?
Bah si, il parle comme ça à sa femme aussi. Mes respects Thierry.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses ce soir en nocturne à Vincennes et mon pari gagnant sera le 316 Cap Matisse. Il est en forme, à l'image de ses compagnons d'entraînement qui ne cessent d'engranger les bonnes performances, et ce depuis plusieurs semaines. Âgé de 7 ans, il ne compte que 40 courses au compteur, en raison de problèmes de santé dans sa jeunesse, désormais résolus. En retard de gain et en constant progrès à chacune de ses sorties, il devrait pouvoir profiter pleinement de ce bel engagement et empocher ainsi les quelques 25 200 euros offerts au vainqueur de ce quintet. Alors notez bien, pour ce soir à Vincennes, réunion 1, dans la troisième course, le numéro 16, Cap Matisse.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h20.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, et avant de passer à cette séquence impudique qui chaque matin à la même heure vous en dévoile un peu plus sur l'intimité de notre colocation, laissez-moi vous rappeler qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale du bricolage. Et à cette occasion, hier, nous avons pris un peu d'avance et nous avons décidé au sein de la coloc DLC de bricoler tous ensemble. J'ai été désigné évidemment maître des opérations, Céline, Eva et Jérôme me secondaient. Bon, tout le monde est en tenue, vous avez vos casques de protection. Mais Eva, Céline, arrêtez de vous chamailler, équipez-vous.
Aïe, mais le coup de casque dans la tronche.
Arrêtez de la cogner. Bon, pour la peinture, je vois des pots, je vois pas de rouleaux. Vous avez bien acheté des rouleaux, Eva, Céline, c'était sur la liste. Hein. Pour peindre, il faut des rouleaux, des pinceaux, personne ne vous a jamais dit ça?
On est deux connes, hein, toutes les deux. Tout le monde est au courant, sauf nous.
J'en prends note, bah, il faut reprendre toutes les bases. Hein. Vous voyez ça? Ça s'appelle un marteau, et ça, là où j'ai la main, c'est le manche.
Ou accessoire compromettant.
Céline, on se concentre. Et ensuite, alors attendez, pour quelle raison Gégé bloque-t-il depuis 20 minutes sur ce forêt pour perceuse en riant bêtement?
La raison, bah, il s'est remis à fumer du cannabis.
C'est pas possible, mais il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Hein. Je suis pas votre père. Bon, je perds, sinon on commencera jamais. Eva, pourquoi vous souriez?
C'était un bruit de tire-bouchon, on est d'accord?
Non, Eva, on vient à peine de commencer. Buvez de l'eau. Et rendez-vous utile, plantez ce clou pour accrocher le petit cadre avec cette photo de nous quatre. C'est dans vos cordes, ça, non?
Oh là là, trop dur.
Bon, je vais le faire. Où est le marteau? On a perdu le marteau. Un truc qui ressemble. Aidez-moi, bon sang.
Attendez, il y a une carotte.
Mais non, mais Jérôme, vous dites n'importe quoi, c'est cette fumée de l'herbe. Bon, voulez-vous mettre au vernissage du bois?
Pardon, je vous écoutais pas, excusez-moi.
Non, alors bon, oubliez. Eva, prenez ce marteau. GG, tenez-lui le cadre et passez un slip parce que sinon, comment dire? Connaissant la précision d'Eva.
Oh quoi?
Alors oui, alors on a un petit problème. Les cocos, on se réveille, c'est pas du tout les bons sons, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut avoir le dernier son ou pas?
Je suis comme une moule accrochée à son rocher.
Non, c'est pas le bon son. C'est un fiasco. Et c'est marrant parce qu'après dans le texte il y avait écrit c'est un fiasco. C'était censé être vers la chute, mais on l'aura pas. Je crois qu'on peut s'applaudir pour ce pressing complètement raté. On passe justement au pressing sans chute, c'est pas grave. Notre passionnante revue de presse en mode zapping. Sans surprise, ce sont les élections européennes qui s'étalent en une de vos quotidiens ce matin, les amis. Libération pose une question. Il y a quelqu'un? La Croix choisit scrutin européen, enjeu mondial, l'Europe face aux risques populistes pour les échos. Enfin, même sujet à la une du Parisien et de l'équipe, le patron du PSG dans la tourmente, Nasser El-Khelaïfi. Ah, je n'arrive jamais à le dire, Jérôme.
El-Khelaïfi.
Très bien, vient d'être mis en examen pour corruption active. Il est soupçonné d'avoir voulu acheter les mondiaux d'athlétisme de 2017. Mais vous, mes déjantés Azou, qu'avez-vous trouvé dans la presse du jour? Eva.
Est-ce que vous reconnaissez ces doux sons?
C'est la ferme.
Ben oui, c'est un peu la ferme. Des coqs, des cloches, des vaches. Mais alors, avec l'urbanisation croissante, autant dire que ces sons, ils tendent quand même à devenir une espèce en voie de disparition pour nos oreilles. D'autant que certains urbains qui choisissent de se réinstaller à la campagne n'aiment guère ces bruits, au point de mettre la pression sur les élus, voire d'intenter...
Ils ont qu'à aller à la campagne.
Exactement, hein. Voire d'intenter des actions en justice, comme le raconte le Figaro ce matin. Et alors, pour mettre fin à toute polémique, Bruno Dionis, c'est le maire de Gajac, c'est une commune rurale de 400 habitants qui est située à environ 70 km de Bordeaux. Il a proposé d'inscrire ces bruits au patrimoine national. Première étape avant leur enregistrement au patrimoine immatériel de l'UNESCO, parce qu'en fait, selon lui, ce classement éviterait justement tous les procès. La campagne, c'est un tout qu'il faut savoir accepter dans son ensemble. Ça semble tellement logique, dit-il.
Oui. J'ai juste une petite demande, moi, personnellement.
Ah, demande.
Un son qui peut-être, on pourrait peut-être ne pas faire les cloches qui sonnent à 5h du matin. À une époque, c'était justifié parce que c'était le repère pour les agriculteurs.
C'est vrai.
Mais aujourd'hui, je pense que les agriculteurs ont des smartphones aussi, donc on n'a peut-être plus besoin de réveiller tout le monde avec des cloches
sitôt. Écoutez ça, justement. L'histoire peut paraître cocasse, mais le nombre de procédures se multiplie dans tous les départements. Et justement, Mathieu, en août dernier, par exemple, un couple de Parisiens passe quelques jours dans un gîte en Lozère, un ancien presbytère qui est adossé à l'église. Et ils ont demandé au maire de décaler l'heure de l'Angélus, qui sonne depuis des siècles tous les matins à 7h. 7h, ça va pour...
7h, ça va.
Et bien, le maire n'a pas cédé, et heureusement, l'histoire s'est arrêtée là. Mais en Dordogne, par exemple, des habitants ont été sommés par la justice de combler leur mare qui accueillait des batraciens jugés trop bruyants par leurs voisins.
Des batraciens, non mais...
Alors,
ça, c'est la nature.
Et l'article se conclut avec le sociologue Jean Viard qui dit « La gestion du bruit est une question majeure qui a été sous-évaluée par les politiques et qui fera partie des grands enjeux des prochaines municipales en 2020. Les querelles de clochers ont la dent dure, je vous le dis. Hein. »
Les querelles de clochers, c'est le cas de le dire.
Mais oui, c'est un petit jeu de mots.
C'est
pas grave. C'est d'ailleurs dans le Figaro.
Mettez des cymbales derrière quand vous tentez de la balle comme ça. Céline Dacosta.
Alors, une histoire trouvée sur le site du journal Sud-Ouest, une de ces histoires comme on en trouve dans les contes. Il était une fois Jordan Adler Rogers. Il a 31 ans, il vit en Angleterre dans un logement social avec sa fiancée et leur bébé. Jordan ne connaît pas son père, mais depuis l'âge de 8 ans, il est convaincu, alors on ne dit pas comment, on imagine que sa mère lui a donné quelques infos, il est convaincu d'être le fils d'un certain Charles Rogers, lui-même fils d'un lieutenant de la Royal Navy et frère d'un pilote de la Royal Air Force, un aristocrate qui a passé 40 ans à vivre reclus dans la propriété de sa famille en raison de sa toxicomanie. Il est tellement persuadé d'être son fils qu'il demande à plusieurs reprises un test ADN pour le prouver en vain. Mais voilà, Charles Rogers meurt en août dernier et là, plus rien n'empêche Jordan de le faire, ce test ADN. Il découvre alors qu'il est bien le fils de Charles, mais aussi son seul héritier. Il se retrouve donc du jour au lendemain à la tête d'un domaine de 621 hectares évalué à 56 millions d'euros. Et ce n'est pas tout, il touchera aussi les revenus issus de la location des parcelles de terre aux agriculteurs de la région, soit 59 000 euros par an, sans compter qui n'aura pas à se soucier de l'entretien du domaine puisqu'il est pris en charge par le National Trust qui gère donc l'entretien des bâtiments britanniques parce qu'ils ont vendu, la famille a vendu l'édifice depuis 1974 et en échange d'un bail qui permet à ses héritiers d'y vivre pendant 1000 ans. Autant vous dire que Jordan tient sa revanche sur la vie et compte bien en faire profiter ceux qui n'ont pas eu sa chance en créant une association caritative. Il dit ne plus craindre l'arrivée de la prochaine facture, on le comprend, mais il veut aider les autres à s'en sortir.
Mais comment il avait l'idée dès le départ qu'il était le fils?
Justement, ce que je dis, c'est que l'histoire ne le dit pas. J'ai cherché dans plusieurs articles que j'ai trouvés. On imagine que c'est sa mère qui a donné quelques infos.
Oui, voilà.
Puisque c'est depuis l'âge de 8 ans qu'il en est persuadé. Alors, c'est une histoire à la Disney où Picsou n'a pas gagné, et c'est-à-dire sur le site du journal Sud-Ouest.
Jérôme Lacroix.
Je vous parle d'une sorte de grand saladier ce matin, sans doute l'un des plus connus du monde. Et vous allez aussi sans doute l'entendre parler ou l'apercevoir ces prochains jours à la télé. C'est la Coupe des Mousquetaires. Le trophée, vous étiez presque. Le trophée qui récompense chaque année le vainqueur de Roland Garros.
Ah, c'est un saladier aussi.
C'est une sorte de grand saladier parce qu'il y a le saladier d'argent qui est le trophée de la Coupe Davis. Là, c'est pour ça que j'ai dit c'est une sorte de grand saladier, en fait, la Coupe des Mousquetaires. La récompense de Roland Garros. Ce trophée, fabriqué il y a 38 ans, celui qu'on connaît, par Mélério Joyer, situé rue de la Paix à Paris, le Figaro Magazine, est allé cette semaine en visite chez Mélério. Chaque année, il raconte dans les ateliers, l'émotion est la même au moment précis où le vainqueur soulève le trophée à la fin de la quinzaine, parce que c'est le moment de gloire du trophée où sont filmés en gros plan les moindres détails, les feuilles de vigne et d'acanthe gravées dessous à la main par l'orfèvre, les deux anses en forme de cygne et tous les micro-détails. 14 kilos, elle pèse, cette Coupe des Mousquetaires.
Ah, il faut vraiment être sportif.
Faire 3 heures de tennis, ouais. 14 kilos d'argent pour ce trophée soulevé notamment 3 fois par Mats Wilander, 3 fois par Gustavo Kuerten, 11 fois par Rafael Nadal, mais aussi une fois
par Yannick Noah,
Mais 83. Oui. Mais sachez-le, aucun d'entre eux n'est reparti avec à la maison. Après la cérémonie, il reste entre les mains de la fédération, l'original. Il revient d'abord à l'atelier rue de la Paix quelques jours afin qu'il soit gravé le nom du vainqueur de l'année à la suite de tous les autres. Les champions, eux, se voient remettre une réplique fabriquée aussi en partie chez ce joaillier, Mélério. Une réplique.
C'est vrai que Nadal, chez lui, il en a 14 comme ça qui font. Il en a 9 qui font 14 kilos.
Il en a 11.
Mais... 11, 11. Et donc, comme ça, ouais, il faut de la place.
Alors non, parce que les répliques, elles sont justement un peu plus petites. Elle demande quand même tout de même une centaine d'heures de travail, avant
Belle
le tournoi.
Voilà.
Voilà, exactement. Mélério, je ne le savais pas, c'est aussi le joaillier du Ballon d'Or pour le foot. Et du coup, à l'atelier, 3 personnes seulement connaissent le nom du lauréat 10 jours avant pour que le nom soit gravé, obligation, bien sûr, de garder le secret.
Évidemment, le secret sera bien gardé. Merci Jérôme Lacroix, le pressing referme ses portes.
Europe 1. Il est 5h28, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec la météo et le journal d'Hélène Zeleny, galvanisant réveil à l'écoute d'Europe 1.
Il est 5h30, Mathieu Noël.
Ma chère Céline Dacosta, un point sur la météo de ce 24 mai. Arrivée de la pluie par le sud-ouest.
Oui, c'est vrai, avec ce matin des averses soutenues des Landes jusqu'au Midi-Pyrénées, de la neige même sur le relief. Averses qui vont devenir orageuses, qui vont gagner jusqu'à la région centre et l'Auvergne dans l'après-midi, peut-être même l'Île-de-France en toute fin de journée. En attendant, c'est encore du soleil pour quasiment tout le monde. Et puis, il va résister soleil, surtout de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais. Les températures, on verra ça en détail, mais elles baissent fortement dans le sud-ouest cet après-midi à cause de la pluie.
Merci Céline.
Europe 1.
5h, 7h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2h à la frontière de l'info et du rire en compagnie d'une équipe toujours prête pour vous divertir. Enfin, toujours prête, quasiment toujours.
On n'est pas prêt.
Déjà ? Je suis pas prêt. À suivre, Eva, si je vous dis brain spotting, vous me dites.
C'est cracra ?
Pas du tout. Le brain spotting est une technique médicale qui peut guérir nos traumatismes. C'est le thème d'un livre santé qu'a lu pour nous le docteur Ichou. Vous n'avez pas de traumatisme d'enfance, Eva ?
J'ai le souvenir d'une scène de copulation entre un âne et une vache.
Non, on ne veut pas savoir. Attendez, le brain spotting, ça pourra vous guérir.
Bienvenue sur Europe 1, il est 5h31. Mathieu Noël.
Toute l'actu de ce 24 mai. Bonjour Hélène Zeleny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
Des témoignages poignants au procès des suicides chez France Télécom. La Cour a entendu les premiers mots des parties civiles. Récit dans un instant. C'est le dernier jour de campagne pour les européennes de dimanche. Les têtes de liste vont tout faire pour mobiliser face au risque d'abstention. Et puis football avec la dernière journée de Ligue 1 et notamment une bataille pour le maintien entre Caen, Amiens et même Monaco. Multiplex ce soir sur Europe 1 de 20h à 23h30 présenté par Lionel Rosso.
Europe 1.
Beaucoup d'émotions hier au procès des suicides chez France Télécom. Pour la première fois, le tribunal entendait les témoignages des parties civiles, leur descente aux enfers, mise sur la touche, harcèlement, dépression. Chloé Triomphe assistait à l'audience pour Europe 1.
À la barre, c'est une veuve à l'allure soignée qui vient livrer son témoignage tout en retenue. Car Michel, son mari, était comme ça, explique-t-elle. Il était discret. Mais après son changement de poste, il a fait demi-tour un matin sur le chemin du travail et est rentré chez lui se suicider.
C'est une victime invisible parce que je crois que dans son cas, comme dans beaucoup d'autres, la fragilisation de tous ses personnels, elle s'est faite de manière très insidieuse au sein de cette entreprise, silencieuse, sans faire beaucoup de bruit, jusqu'à ce que tout ça éclate avec les suicides de 2007 et 2008. Michel, c'est quelqu'un en qui tout le monde avait une grande confiance et je pense que parmi tous nos amis, tout notre entourage familial, jamais personne n'aurait pu imaginer ce geste, jamais.
Et si Marie-Pierre est venue au procès, c'est aussi pour tous les autres, les absents et les survivants, comme Guy qui, hier, s'excusait de ses propos confus à cause des antidépresseurs, ou Daniel, resté 13 mois chez lui, payé mais privé de poste, comme un parasite, explique-t-il encore meurtri, des témoignages qui vont se succéder pendant plusieurs semaines.
Chloé Triomphe, et puis de nouveaux soupçons pèsent sur l'anesthésiste de Besançon. Le docteur Péchier aurait essayé d'empoisonner l'une de ses propres collègues anesthésistes. Il est déjà mis en examen pour 24 empoisonnements, dont 9 ont entraîné la mort.
Le repreneur de l'acierie Ascoval va aller à la rencontre des salariés très inquiets.
Oui, hier, les représentants syndicaux de l'usine de Saint-Saulve dans le Nord étaient reçus à Bercy. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a voulu les rassurer sur les engagements du repreneur British Steel, placé en faillite. Le ministre a d'ailleurs obtenu que ce repreneur se rende dans le Nord la semaine prochaine pour discuter avec le personnel.
Europe 1, il est 5h33.
C'est le tout dernier jour de campagne des Européennes.
À partir de minuit ce soir, il ne sera plus possible de donner la parole aux candidats ni de rendre compte de leurs faits et gestes. L'idée pour les partis, c'est donc de réussir à faire parler d'eux aujourd'hui, notamment dans les journaux de 20h, Emmanuel Duteil.
Les Républicains ont opté pour un déjeuner champêtre, c'est à 13h à Saint-Cyprien, à côté de Perpignan. Laurent Wauquiez et François-Xavier Bellamy, qui ont du mal à monter dans les sondages, vont tenter une dernière fois de convaincre. Le but d'un tel horaire, c'est surtout de faire parler d'eux sur toute la journée, mais ils vont être concurrencés par le Rassemblement National. Pas de pique-nique pour Marine Le Pen et Jordan Bardella, mais une conférence de presse à 15h. Ce sera dans le fief de la présidente du RN à Edin Beaumont. Il y aura ensuite un meeting en début de soirée. La France Insoumise va, elle, sortir une fois de plus son holovane. Ce sera à Lille. Ces holovanes sont des camions avec un hologramme, notamment de Jean-Luc Mélenchon. Avant là aussi un grand meeting, avec cette fois tout le monde en chair et en os. La plupart des meetings vont par ailleurs débuter un tout petit peu plus tôt que d'habitude, c'est-à-dire vers 18h30 pour espérer des images dans les journaux de 20h. C'est le cas notamment de La République En Marche, meeting à la Mutualité à Paris. Le PS, qui pour la première fois pourrait ne pas envoyer d'élus à Bruxelles, tente l'originalité. Le parti a opté pour un meeting sur une péniche à Paris.
Emmanuel Duteil. Et en fin de journée, pour s'adresser aux jeunes, Emmanuel Macron répondra aux questions du youtubeur Hugo Travers, qui intervient également sur Europe 1. Hier, aux Pays-Bas, les pro-européens ont déjoué les sondages et sont sortis vainqueurs du scrutin, selon les premières estimations. En revanche, rien n'a filtré sur le Royaume-Uni. Aujourd'hui, on vote en Irlande et en République tchèque.
Et pour ces européennes, le changement climatique est un sujet crucial.
Aujourd'hui, justement, les jeunes sont à nouveau appelés à descendre dans la rue dans le cadre d'une grève mondiale pour le climat. Appel qui devrait être entendu dans une centaine de villes françaises. Et puis l'événement Glamour à Cannes hier, c'était le gala de l'âme phare. Tous les ans, il réunit les plus grandes stars en faveur de la lutte contre le sida. Cette année, Antonio Banderas, Eva Longoria ou encore Maria Carey ont payé 11 000 euros chacun pour dîner au Palace Eden Rock. La vente aux enchères proposait notamment une île privée dans l'océan Indien ou encore un portrait de Mick Jagger par Andy Warhol.
Merci beaucoup, c'était le journal d'Hélène Zelani. Hélène Zelani, surtout en duo avec Nikos Aliagas à 7h. C'est du journalisme, oui, mais c'est beaucoup plus que ça.
Un homme et une femme. Hélène Zelani. Nikos Aliagas. Ils marchent main dans la main sur les plages normandes. Respire, Hélène.
Le camembert rôti dans la cheminée.
Si vous saviez comme il est jaloux de Nikos Aliagas.
It sucks, absolutely sucks.
Voici Jérôme Lacroix pour le Journal des Sports. À la une, mon GG, vivre ou survivre.
C'est la bataille du maintien, l'enjeu ce soir de la dernière journée de Ligue 1 de foot, parce qu'en haut du classement, tout est joué, PSG, Lille et Lyon en Ligue des Champions, Saint-Etienne en Ligue Europa, mais pour la descente en Ligue 2, qui va rejoindre Guingamp? Ça se joue entre Dijon, Caen, Amiens et dans une moindre mesure Monaco. Les deux les plus en danger, c'est Dijon et Caen. Les Bourguignons actuels 19e reçoivent Toulouse. Ils doivent gagner et espérer que dans le même temps ce soir, les Canets perdent à domicile contre Bordeaux pour espérer au moins accrocher la 18e place de barragiste. C'est Normand qui reste sur une claque 4-0 à Lyon au dernier match. Le manager expérimenté Roland Courbis, il a tenté de trouver les mots cette semaine pour conditionner ses hommes à la grande bataille. Il a un peu enjolivé la réalité.
On s'est imaginé que nous venions de gagner à Lyon. Donc voilà, on a présenté les choses comme ça. C'est-à-dire qu'on est content d'avoir gagné à Lyon. On a sauté de joie, on s'est embrassé. On a dit maintenant, vivement le match de Bordeaux. Et après, ben, je plains celui qui jouera contre nous au barrage. Donc voilà, on a un petit peu triché dans la présentation des choses, mais on n'a pas triché au niveau des points, hein, on a le même nombre de points.
J'aime bien à la fin le petit.
Énorme, Roland Courbis.
Voilà, dernière journée de Ligue 1 à suivre en multiplex sur Europe 1, rendez-vous dès 20h.
Les actes de violence dans le foot amateur sont en très légère augmentation.
618 000 matchs se sont tenus en amateur la saison dernière, ça s'est terminé dans la violence. Dans 1,8% des cas, c'était 1,6 il y a deux ans. Un résultat peut-être dû aussi à des meilleurs moyens d'identification des problèmes. Écoutez Pierre Samsonov, numéro 2 sur le foot amateur à la Fédération Française.
Le football n'est pas hors du monde, donc on a des phénomènes de violence comme on en a malheureusement un petit peu partout. Les chiffres ne diminuent pas significativement, ils n'augmentent pas non plus significativement, et ce qui compte pour nous, c'est surtout de réussir à servir du foot pour passer des messages de vie en société, de vivre ensemble, qui sont extrêmement importants à nos yeux.
Des propos recueillis par Marie Guida.
On termine, Jérôme, avec la personnalité du jour.
En écho à hier à la même heure, on connaît ce matin son identité. L'adversaire de Roger Federer pour le retour du champion de tennis suisse sur la terre battue de Roland-Garros après 3 éditions d'absence. C'est l'Italien Lorenzo Sonego, 24 ans, 73e mondial. Il a été désigné hier par le tirage au sort de ce premier tour qui démarre dimanche. Nadal jouera contre un qualifié, Djokovic contre un jeune Polonais. Côté français, premier tour abordable, notamment pour mon fils, opposé à un Japonais, 107e mondial.
C'est pas facile de dire opposé à un Japonais.
Un Japonais, ça ne veut rien dire. Ben,
je vous le confirme. Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix, l'amant de moins en moins secret de Céline Dacosta, même s'il continue d'utiliser cet étrange langage codé pour préparer leur 5 à 7 crapuleux.
Pied brève.
Hein, c'est cracra.
On ne comprend toujours pas ce qu'ils disent, mais eux non plus.
Il est 5h39, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui prend l'actu au sérieux sans jamais se prendre au sérieux avec des personnages truculents comme Céline Dacosta et Hélène Zélani.
C'est une plante, le couscous.
Comment tu peux manger ça?
À suivre, votre point santé. Comme chaque vendredi, le docteur Ichou a lu pour vous un ouvrage bien-être. Ce matin, il s'intitule « Guérir de ses traumatismes avec le brain spotting ». Une nouvelle technique, vous allez voir, prometteuse. Même si personnellement, je ne sais pas si un traumatisme tel que avoir assisté à la reprise d'un tube de Céline Dion par Eva et Céline soit vraiment guérissable.
Si tu l'emportes ailleurs.
Je crois que là, la seule solution, c'est la résilience.
D'autres dansent des heures.
Il est 5h40, Mathieu Noël.
On fait un point sur la météo du jour avec vous, Céline, et du soleil pour les trois quarts du pays aujourd'hui.
Oui, ce matin en tout cas, un soleil et nuages, mais on en profite car ça va se couvrir. C'est déjà le cas en ce moment dans le sud-ouest, avec des averses soutenues. Elles vont tourner à l'orage des averses cet après-midi, gagner l'Auvergne, remonter jusqu'en région centre, voire en région parisienne en fin de journée. Là où le soleil va bien résister, c'est près des côtes de la Manche. Les températures sont en chute libre dans le sud-ouest. Avec cet après-midi une moyenne de 15 à 19 degrés, on va perdre par endroits jusqu'à 11 degrés par rapport à hier. Ailleurs, ça va rester très doux avec 20 à 25 degrés, encore 23 attendus à Paris et 26 dans le sud-est.
Merci Céline Varoc.
À 6h45, je vous parlerai de la nouvelle série française qui sera diffusée sur France 2 ce soir qui s'appelle Double Jeu. Et à cette occasion, on voulait savoir si vous aimez les séries françaises, lesquelles. Et vous êtes très nombreux à nous répondre
on
sur
aime
Twitter.
Pas les séries françaises, on aime les bonnes séries.
On aime les bonnes
si
séries.
Elles sont françaises,
exactement.
On les aime
avec le hashtag Europe 1, vous êtes très nombreux à nous répondre. Marie-Claire a dit il m'arrive de regarder des séries françaises, mais très très peu parce qu'on regarde la télé au lit et souvent un de nous deux s'endort avant la fin. Alors, Marie-Claire, il ne faut pas regarder la télé dans sa chambre.
C'est pas terrible, pour ne serait-ce que pour votre vie sentimentale.
Exactement. Et Olivier nous dit, série vintage, Arsène Lupin, les Brigades du Tigre, ça sent un peu la naphtaline, mais c'est pas mal et il a raison. Vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci à vous.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Un suppo et on lit, c'est le nom astucieux de notre chronique du vendredi, Bibliothérapie. On évoque un livre sur la santé avec vous. Bonjour docteur Ichou.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes venu ce matin avec un livre étonnant qui s'intitule « Guérir de ses traumatismes avec le brain spotting » du docteur Christian Zazic aux éditions Edith Jacob. Alors déjà, qu'est-ce que le brain spotting, docteur Ichou?
Eh bien, le brain spotting est une technique de psychothérapie qui met en relation le corps, l'esprit et la conscience. Le principe repose sur deux points fondamentaux, la présence relationnelle avec le thérapeute et la prise de conscience qui se traduit par des positions particulières de l'œil et du regard, les brain spots. Le brain spotting repose sur le fait qu'en fonction de l'endroit où l'on regarde, on ne ressent pas les mêmes choses. Cette relation entre la position de l'œil et le souvenir émotionnel permettrait en quelque sorte de reprogrammer, de retraiter ces souvenirs et leur charge émotionnelle.
Mais alors, comment trouver le bon spot de l'œil?
Par l'analyse, le thérapeute recherche ce qui se passe dans le corps du patient et les sensations qu'il ressent en fonction de l'endroit où il regarde. Le spot peut aussi être trouvé par le patient lui-même. Mais avec le recul, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai la certitude qu'en matière de psychothérapie, en dehors de la technique, l'expérience du thérapeute et plus que tout, l'interaction avec le patient conditionne le succès thérapeutique.
J'essaie d'avoir un œil sur vous et un œil sur Eva Rock, mais à part loucher...
Bah ça va créer des traumatismes.
Oui, certainement.
J'espère que vous avez des émotions plus fortes avec moi qu'avec Marcel Ichou, quand même.
Calmez-vous, Eva, calmez-vous. Toujours ramener tout à ça, franchement. Merci. On se retrouve lundi, docteur.
Europe 1.
Il est 5h44, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos rigoureuses dans un écrin de bonne humeur avec des personnages hilarants et des répliques désopilantes qui ne sont pas sans rappeler la grande époque de Friends.
J'arrête l'alcool.
Sacré Eva. À suivre, faut-il être un VIP invité sur la croisette pour voir les films de la sélection officielle? Non. Certains des films projetés à Cannes sont déjà en salle aujourd'hui. Notre spécialiste cinéma vous dit lesquels, voire en priorité dans Vendredi les bons tuyaux. Mais d'abord un peu de musique. Céline, écoutez ça. Pas mal, hein?
J'adore Enrico Macias.
Oui, sauf que c'est à dire. J'ai cherché sur Europe 1.
J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait.
J'ai cherché Amir sur Europe 1.
Europe 1. Il est 5h46, Mathieu Noël.
Dans un instant, le meilleur de la crème du dessus du panier de ce qu'il faut absolument savoir en matière de tout et n'importe quoi. La preuve, nous parlerons casque de réalité virtuelle avec Clément Le Saff, tapis rouge à Cannes avec Mathieu Charrier et musée d'Orsay à Paris avec Eva Rock. Alléchant programme.
Il est 5h47, voici l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
De nouveaux soupçons à l'encontre de l'anesthésiste de Besançon, Frédéric Péchier, mis en examen, poursuivi pour désormais 24 soupçons de patients empoisonnés, 9 sont morts. Ce praticien aurait cherché à empoisonner l'une de ses propres collègues il y a 3 ans. Cette consoeur a échangé à la dernière minute la date d'une intervention. La femme qui a pris sa place est décédée. Pas de date de retour en circulation des Boeing 737 MAX à l'issue hier d'une réunion au Texas des autorités mondiales de l'aviation civile. Il y a encore des doutes sur le bon fonctionnement de ces appareils. 2 d'entre eux se sont récemment écrasés. Enfin, le foot et la dernière journée de Ligue 1 ce soir. 10 matchs à suivre en multiplex sur Europe 1, rendez-vous dès 20h. L'enjeu, c'est la lutte pour le maintien en première division. Ça va se jouer entre Amiens, Dijon, Caen et dans une moindre mesure Monaco.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce vendredi 24 mai. Au moment d'accueillir José Coves pour les pronostics hippiques, je tiens à lui signaler que le patron d'Europe 1 est très content de son travail. Il veut faire un geste.
Il se dit prêt à donner quelques boîtes de pilules bleues.
Non, non, Céline, José n'a pas besoin de ça. Il est en pleine forme. Une augmentation serait plus utile. Bonjour, José Coves.
Bonjour, la mort aurait c'est bien fait pour lui. Le trot, c'est trop bien, Vincent. 20h15, 16 trotteurs au départ de la troisième course. Mon 5 majeur, le 4 Colorado. Colorado Blue, c'est le plus rapide sur ce tracé des 2700 mètres. Il finira dans les 3 premiers. Le 16, 4 Matisse trouve un engagement en or massif. Avec Kadaska de Guèze, le 7, c'est tout bien ou tout mal. Attention, numéro 1, Baron du Goutier, c'est le moins riche du peloton, mais pas le moins performant, loin de là. Et le numéro 15, Big Boss, avec 15 super Eric Raffin aux commandes, une bonne place lui est promise. En cas de défaillance, le 6, Contre d'Érable, sur son meilleur parcours. Le 13, Citizen Kane, bien engagé. Et enfin, le 8, Vixel, unique pour la 5e place. Mon ticket pour la 3e course vers 20h15. D'abord le 4, le 16, le 7, là c'est le 15, et ensuite le 6, le 13 et le 8.
C'est pas vous, José, mais moi je vois bien ce pauvre baron du Goutier le passer à la caisse.
Ah, en raison de problèmes de santé, baron du Goutier n'a pas un compte en banque en rapport avec son talent. Il devrait être beaucoup plus riche. Aujourd'hui, il a retrouvé la grande forme, et comme c'est un dur à l'effort, ce baron ne va rien lâcher pour finir dans l'argent. Et une nouvelle fois, Mathieu, vous avez posé la bonne question. Merci.
Mais ça, je sais, mais c'est grâce à vous, j'ai progressé. Et maintenant, je suis incollable. Merci, José.
Il est 5h50.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains continue avec notre séquence culture et nouvelles technologies. Voici Vendredi les bons tuyaux. Mathieu Charry en duplex de Cannes pour le cinéma, Eva pas en duplex de Cannes pour les écrans, et bien sûr, pour les nouvelles technologies au service de notre quotidien, celui que Pete Doherty qualifiait récemment dans Rock'n'Folk de, je cite, « most insane crazy motherfucker ever ». Clément Le Saff, dont l'insolente énergie de la jeunesse nous a encore giflé hier matin alors qu'on l'accueillait.
Ça va Clément ?
Tu réponds même plus quoi. Je suis très déçu.
J'ai envie de dormir.
T'es du matin toi, ça faut le dire quoi.
Moi, je suis du milieu de journée moi.
Aussi qu'enchaîner directement le gibus et l'antenne, ça laisse des traces, hein, même à 19 ans. Bref, on commence plutôt par l'expérience et la sagesse. On retrouve Mathieu Charry à Cannes. Et alors que le festival se termine demain soir, vous nous parlez, Mathieu, des films cannois que l'on peut aller voir en salle dès aujourd'hui. Et justement, sort ce vendredi, en même temps que sa présentation à Cannes, Sibylle, le nouveau film de Justine Triet.
Oui, vous vous rappelez qu'avait fait Victoria il y a 3 ans, porté par Virginie Efira et Vincent Lacoste, qui avait aussi fait d'ailleurs le très bon La Bataille de Solferino. Et donc, elle revient avec Sibylle, toujours incarnée par Virginie Efira. Cette Sibylle, c'est une ancienne actrice reconvertie en psychanalyste, mais elle en a un peu marre. Elle se dit qu'elle va arrêter. Elle commence à prévenir ses patients, à les réorienter vers d'autres psys, lorsqu'un soir, son portable sonne. Au bout du fil, une jeune fille désespérée, c'est Adèle Exarchopoulos, elle s'appelle Margot dans le film, elle-même actrice. Et figurez-vous qu'elle est enceinte de l'acteur principal du film qu'elle est en train de tourner. Acteur qui officiellement est en couple avec la réalisatrice, sacré sac de nœuds. Sibylle se dit que ça ferait un super roman, elle commence à la recevoir, à enregistrer ses conversations, ce qui est contraire évidemment au code de déontologie, et à se prendre au jeu, ce qui va remuer en elle pas mal de choses. Je ne vais pas trop vous en dire pour ne pas vous spoiler le film, mais sur cette base, Justine Triet déroule de nouveau une réflexion sur la femme d'aujourd'hui, ses tourments, sur les origines aussi beaucoup, d'où vient-on, où va-t-on, sur les névroses, ça brasse tous ces thèmes, ça vous questionne aussi sur vous-même. Franchement, aller voir Sibylle qui sort aujourd'hui devrait être remboursée par la Sécu pour nous aider à mieux comprendre les femmes.
Déjà, avec deux femmes comme ça, moi j'ai envie d'aller le voir. J'adore Adèle.
Mais les auditeurs, ça les aide à se décider de savoir que ça vous intéresse.
Oui.
Et puis
oui.
Demain, c'est donc la fin du Festival de Cannes, Mathieu, avec la présentation du nouveau film d'Éric Toledano et Olivier Nakache.
Et oui, je ne vais pas me risquer à vous faire les pronostics parce qu'après vous allez garder les bandes et me les ressortir, Mathieu. Mais
enfin,
effectivement.
Y a plus de bandes. Aujourd'hui, on est passé au numérique, Mathieu, mais bon, c'est vrai que vous avez commencé la radio.
Ça ne nous rajeunit pas. Juste après le palmarès, nous découvrirons effectivement Hors Normes, nouveau duo des réalisateurs d'Intouchables ou du Sens de la Fête. Qui reviennent d'ailleurs à leur cinéma qui mélange comédie et thèmes compliqués. En l'occurrence, c'est Vincent Cassel et Reda Kateb à la tête d'associations qui forment des jeunes de banlieue pour encadrer des adolescents autistes.
Et Baroque vient de basculer sur sa chaise à l'envers en tirant la langue de manière assez érotique. Je pense que ça signifie que le casting lui plaît.
Bah oui, ça c'est Baroque. Donc, ils vont encadrer des adolescents autistes. Le film est présenté demain soir à Cannes, qui renoue ainsi avec la grande tradition, vous savez, de ce film de clôture. Il l'appelle La Dernière Séance. C'est en sélection officielle, mais hors compétition, donc pas en lice pour la Palme d'Or. Hors norme devrait sortir en octobre prochain. Donc, on verra un petit peu plus tard.
Merci beaucoup, Mathieu. Et tout de suite, on passe, parce que l'excitation est grande dans le studio, une nouvelle technologie au service du quotidien avec Clément Le Saffre et Céline Dacosta qui jouent depuis tout à l'heure avec le nouveau joujou que nous a apporté ce matin Clément.
Elle a tout fait tomber en plus.
Clément, vous avez testé l'Oculus Quest,
absolument,
le tout dernier casque de réalité virtuelle qui a l'air fabuleux.
Ouais,
dites-nous
c'est,
tout.
C'est vraiment assez incroyable quand même. Ah. Faut savoir, donc les casques verts, on va quand même rappeler un peu ce que c'est.
Oui.
Ce sont ces casques qu'on se met sur la tête et qui
avec
permettent...
lesquels on a l'air ridicule.
Alors, ça c'est un avis. Moi je trouve que j'ai l'air
c'est
très classe avec. Ils permettent de jouer donc à des jeux ou de regarder des vidéos à 360 degrés. Jusqu'ici, le problème de cette technologie, c'était qu'il y avait des fils, tout était branché, donc c'était pas très pratique pour se déplacer. Eh bien, l'Oculus Quest, lui, zéro fil, plus rien, ça marche sur batterie, c'est complètement autonome. Résultat, bah, c'est une liberté de mouvement complète, ça renforce complètement l'immersion dans les jeux, on se croit vraiment à l'intérieur, c'est un vrai plaisir quand on y joue. Le seul inconvénient de l'Oculus Quest, c'est que du coup, la batterie est un peu faible. L'autonomie, c'est à peine plus de 2 heures de jeu. Mais paradoxalement, bah, je vais vous dire une chose.
Je pense que 2 heures comme ça, vous avez la tête comme un melon.
Exactement, c'est pas plus mal, en fait, puisque ça oblige à s'arrêter assez rapidement. C'est assez physique, la VR, quand même, faut le savoir. Moi, j'ai fait des longues sessions, plus de 2 heures, voire 3 heures. À la fin, j'étais vraiment en sueur, crevé, voire un peu nauséeux.
Ça m'étonne de vous, Clément. Non, vous d'habitude si vigoureux.
Et c'est pour ça que je suis fatigué le matin. C'est parce que je joue à ça
toute la machine qui vous rend dans cet état. Exactement.
Ça peut donner la nausée sur certains jeux, effectivement. C'est vraiment un super produit, mais il ne faut pas en abuser.
Alors, au niveau jeu, Clément, qu'est-ce que ça donne?
Le vrai plaisir de la réalité virtuelle, c'est d'incarner des personnages, d'être au cœur de l'action soi-même.
Est-ce qu'on peut jouer à FIFA avec ça?
Alors, pour l'instant, non, mais ça pourrait arriver. Hein, sait-on jamais, mais on peut déjà jouer à Star Wars. Moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour Vader Immortal. C'est un jeu d'aventure, en fait, où vous incarnez un contrebandier qui va rencontrer Dark Vador. Voilà, il y aura une quête, etc. C'est hyper immersif, et évidemment, l'intérêt, c'est quoi?
On peut jouer au sabre laser?
Exactement. Donc, il y a des combats qui sont juste géniaux. On peut les refaire. Enfin, c'est un vrai plaisir, quoi. Donc, je vous donne.
Vous n'avez pas apprécié mon imitation du sabre laser.
Si, on est épaté.
Un peu surcoté comme imitation. donc, voilà. Il y a Star Wars, mais il y a plein d'autres jeux. Je vous en donne 2 ou 3 pêle-mêle qui sont vraiment cool. Il y a Robo Recall, qui est un jeu de tir où il faut stopper une révolte de robots. C'est très bien fait. Le meilleur jeu pour moi, ça reste Super Hot VR. C'est un jeu d'action dans lequel le temps s'écoule en fonction de la vitesse de vos mouvements. Si vous restez immobile,
parce que le titre laissait penser autre chose. Ouais. Super Hot, ça aurait pu être un jeu.
Je vois vous l'avenir. Esprit pervers, Mathieu. Et puis, on va citer Creed, Rise to Glory. Creed, comme le film de boxe, hein, là c'est la même chose, vous refaites l'histoire de ce jeune boxeur et pour le coup ça c'est très physique, hein. Moi j'ai terminé en sueur sur celui-là.
Vous terminez souvent en sueur.
Exactement,
ça coûte quelques combien efforts. Tout ça?
Alors c'est vendu 449 €, c'est le prix d'une console type PS4 ou Xbox en fait, et puis les jeux coûtent eux entre 10 et 30 euros.
D'accord, et bien écoutez, vous savez quoi?
On va le tester. Oui, puis on va le tester.
On va le tester, on aura l'air malin. Ouais. Eva.
Oui, alors moi je change totalement de domaine et je vous propose de regarder une œuvre, un regard, c'est sur le site du musée d'Orsay. Une série de pépites que j'ai décelées effectivement sur le site internet du musée. Une fois par semaine, une vidéo est postée pour une collection donc baptisée Une œuvre, un regard. Une œuvre donc commentée par une personnalité comme la danseuse et chorégraphe Blanca Lee. Elle a choisi de commenter une sculpture de Rodin, Fugit à mort. C'est une sculpture qui représente un couple, deux corps en tension. La femme symbolise la tentation et Blanca Lee porte un autre regard sur cette œuvre absolument magnifique.
Et je me demande s'il avait les modèles qui étaient là. Ils ont dû beaucoup souffrir. Et s'il n'avait pas les modèles, il avait un instinct incroyable de les mouvements. Ce que j'aime aussi beaucoup de Rodin, et concrètement dans cette œuvre, c'est que ce n'est pas juste des mouvements. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. C'est qu'il arrive à donner au corps l'émotion des mouvements.
Alors autant sur la forme, c'est un peu statique parce que vous avez simplement une personnalité devant l'œuvre en question, mais sur le fond, c'est très très réussi. D'abord grâce à la qualité des commentaires des personnalités. Donc là, vous avez entendu la chorégraphe Blanca Lee, mais il y a aussi Abdel Malik, l'auteur et interprète, mais il y a aussi des écrivains, des philosophes, des designers, des scientifiques. Et puis le choix des œuvres, ce sont des œuvres qui ne sont pas toujours extrêmement connues, mais le résultat est là, on n'a qu'une envie, aller au musée, découvrir ces toiles et ces sculptures dans le cadre sublime du musée d'Orsay. Ces vidéos, ça se passe sur le site du musée d'Orsay ou sur YouTube et c'est extrêmement intéressant. Une œuvre, un regard.
Merci beaucoup Eva, il y en a vraiment eu pour tout le monde ce matin. Merci à toute l'équipe de Bontuyau qui se reformera lundi. Espérons plus réveillé en ce qui concerne le SAF. Hein, Clément, c'est pas un conseil, c'est un ordre. Mollo sur la bœuf.
Laissez-la moi.
Non, poubelle.
Europe 1. Il est 5h57, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacosta et le journal de 6h de qui?
De Céline Kallmann.
Bien évidemment.
Il est 5h58, Mathieu Noël.
On fait un point sur la météo de ce 24 mai. Céline, les températures baissent franchement cet après-midi dans le sud-ouest.
Oui, on va perdre jusqu'à 11 degrés par rapport à hier par endroit. 15 degrés à Tarbes, il en faisait 24 hier. On aura 16 degrés à Auch, 17 à Toulouse, 18 à Agen. Ailleurs, on va conserver des températures quand même relativement douces. Hein, 20-25 degrés, il en fera encore 23 à Paris et jusqu'à 26 à Montélimar. Ce matin, on est dans des valeurs de saison, hein, 10 à 16 degrés. Un petit peu moins à Caen ou Brest, hein, 8 et 9 degrés. Un petit peu plus à Nice ou Perpignan. 17 et 21 degrés.
Température en baisse à cause de quoi? À cause du retour de la pluie,
oui,
Céline.
Avec déjà en ce moment des averses soutenues des Landes jusqu'au Midi-Pyrénées, de la neige même sur le relief au-dessus de 2400 mètres sur les Pyrénées. Sur le reste du pays, on aura encore un ciel clément ce matin, partagé entre nuages et larges éclaircies, un petit peu comme hier après-midi. Attention aux brumes entre la région PACA et la Corse, mais aussi sur la pointe bretonne. Et puis ces pluies, elles vont progressivement gagner la Dordogne, le Limousin, se décaler vers le Languedoc-Roussillon. On aura des averses orageuses bien marquées entre la Nouvelle-Aquitaine, la région centre et l'Auvergne. Des orages qui pourraient même déborder sur la région parisienne dans l'après-midi.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous informe avec sérieux sans pour autant négliger vos zygomatiques. Le secret, c'est que chacun dans l'équipe reste à sa place. Les humoristes, volontaires ou pas, d'un côté, les journalistes de l'autre. C'est ce que j'expliquais hier à Céline Kallmann, présentatrice un peu trop potache du journal de 6 heures après son énième dérapage sur Ma Plume, séquence que vous pouvez retrouver dans le podcast d'hier. Et je crois que Céline a bien compris que c'était finalement son intérêt aussi de rester aussi crédible journalistiquement que possible. Elle s'y est engagée.
Désormais, je ne vais parler que de manière distinguée.
Ah, oui. Même si je dévoile à ton mari notre relation extra-professionnelle.
Et ma main dans ta gueule.
Ah, je l'ai eu. Heureusement, Debout les copains. Oui, c'est vous qui l'avez dit. Debout les copains, moi. C'est aussi Fabrice Dalméda. Une chanson douce. Qui ce matin, à deux jours de l'élection européenne, a décidé de revenir sur l'origine de ce qui sera l'événement de ce dimanche. La fête des mères.